Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Vous avez choisi d'écouter la radio Inzamba Gatega Kawe, vous avez raison, c'est l'heure du journal en français dont voici d'abord la charpente. Le gouvernement burundais a résilié le contrat d'exploitation du nickel qu'il avait signé avec la société Burundi Musongati Mining. Cette résiliation ne sera effective qu'avec un arbitrage international, nous dira dans ce journal un expert en droit des affaires. C'est en désordre à l'église Eusebu, en commune Nyanzarak de la province de Makamba. Les administratifs et certains membres du parti CNDD-FDD s'immiscent dans la gestion de l'église. Enfin, des agriculteurs de plusieurs provinces du Burundi n'ont toujours pas l'engrais chimique de type FOMI. Les délais de 10 jours donnés par le ministre de l'Intérieur pour sa disponibilisation dans tout le pays est déjà dépassé d'environ une semaine. La rédaction Inzamba aura un mot à dire sur ce sujet dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndelakobucha, vient de prendre la décision de prolonger de 10 jours les délais de délimitation des zones de circulation pour les vélos, les motos et tuk-tuk qui allaient prendre fin demain vendredi. Pendant les 10 jours supplémentaires, tous les propriétaires de ces moyens de déplacement devront se faire enregistrer. Cette décision est prise après beaucoup de problèmes qui ont été soulevés par les utilisateurs dans la mise en application de la mesure de délimitation de l'espace de circulation. Et depuis le matin de ce jeudi, le 10 mars 2022, la police anti-émeute a procédé à une arrestation d'une centaine de personnes au centre-ville de Bujumbura. L'opération s'est passée tout près de l'endroit communément appelé Bata, près de l'ancien marché central de Bujumbura. Les cibles étaient des personnes sans identité, des commerçants ambulants, des personnes jugées sans adresse ou sans emploi. Ils ont été embarqués dans des camions de la police et conduits dans les cachots de la police à l'ancien bureau spécial de recherche. La police parle du travail de routine pour traquer les sans-papiers et les commissionnaires. Mais d'autres sources policières indiquent que la police craignait un mouvement de grève de la part des conducteurs et propriétaires des vélos, motos et tuk-tuk récemment interdits de circuler dans le centre-ville de Bujumbura par le ministère de l'Intérieur, une mesure qui était censée entrer en vigueur ce vendredi. La société FOMI aurait quel problème qui l'empêcherait d'exécuter l'injonction du ministre de l'Intérieur? La question préoccupe la radio Inzamba depuis la fin du délai de 10 jours donné par Gervais Ndelakobucha à la société pour livrer l'engrais aux agriculteurs. C'est un éditorial de la rédaction qui vous est présenté par Valérie Mucho.
Une terre exploitée sans interruption se détériore impérativement. Les agriculteurs ont alors besoin d'engrais chimiques afin de venir en renfort aux fertilisants naturels pour leur permettre d'obtenir de bonnes moissons. Conscient de cette donne, le gouvernement burundais a appuyé la création de la société FOMI pour fabriquer de l'engrais chimique afin de permettre aux agriculteurs de se procurer localement de l'engrais et à bas prix. Mais le noble idéal s'est aussitôt transformé en chimère. Depuis sa mise en place, la société FOMI n'a pas atteint l'objectif visé, en tout cas pas en faveur du cultivateur burundais. Pourquoi ? À travers tout le pays, des milliers de Burundais ne savent plus à quel sein se vouer. La saison culturelle touchant presque à sa fin, ils n'ont pas encore reçu l'engrais pour les semailles, déjà longtemps dépassées. Au moment où, à la mi-mars, ils devraient plutôt recevoir le deuxième lot d'engrais nécessaire au sarclage des champs. Et pourtant, ces mêmes agriculteurs avaient versé en avance à la FOMI l'argent nécessaire pour recevoir l'engrais. Ils ont exprimé leurs soucis à l'administration et un ultimatum a été fixé à la société FOMI pour livrer l'engrais, mais rien n'a été fait. Il y a un peu plus de 2 semaines, Gervais Ndelakobucha, le ministre de l'Intérieur, a convoqué dans une réunion les directeurs provinciaux de l'agriculture, les gouverneurs et les responsables de la société FOMI afin de trouver une solution à ce problème devenu insoluble. Une tâche, soit dit en passant, qui incombait plutôt au ministère de l'Agriculture. Un délai de 10 jours a alors été donné à la société FOMI pour distribuer à travers tout le pays toutes les quantités restantes d'engrais à tous ceux qui avaient payé. Le ministre a usé d'un ton tellement tranchant que d'aucuns se disaient que l'engrais serait disponible en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais jusqu'à aujourd'hui, toujours rien. Pas un seul sac d'engrais en vue. Une situation qui ne peut manquer d'interroger. Adrien Nagachika, le patron de la société FOMI, membre du CNDD-FDD, est l'un des hommes les plus riches du parti au pouvoir. Serait-il plus puissant que le super ministre Gervain Ndilakobucha, pourtant considéré comme l'un des hommes forts du gouvernement burundais? Ou alors y aurait-il une implication de gens plus haut placés qui annihilent l'application des injonctions du ministre? Quoi qu'il en soit, les agriculteurs qui ont versé leur argent à la FOMI et qui n'ont pas reçu d'engrais méritent justice. Qui sera tenu responsable si demain une famine se déclarait, alors que les braves citoyens avaient tout donné? Le chef de l'État burundais, qui avait déclaré 2022 année de l'agriculture, doit intervenir en dernier recours afin de sauver les agriculteurs. Au cas contraire, c'est lui et son gouvernement qui seront tenus responsables de cette terrible situation.
Merci Valérie Mucho. Dans la suite de l'actualité, toute résiliation du contrat avec une société multinationale finit par un arbitrage international et c'est à ça qu'il faut s'attendre entre l'État du Burundi et la société BMM, Burundi Musongati Mining. C'est l'avis d'un juriste expert en droit des affaires après la résiliation du permis d'exploitation du nickel par un décret du président de la République, Évariste Ndayishimiye. On écoute Maître Yves Runyagou.
Ici, on doit s'attendre à ce que cette société traîne l'État du Burundi devant l'arbitrage international. Ici, je dois dire qu'il y a à craindre, étant donné que durant même la phase des négociations, le gouvernement semblait avoir été dans une position de faiblesse. Cette multinationale a pu insérer une clause d'élection de force, comme on dit, par laquelle peut-être l'arbitrage sera effectué au niveau d'endroits un peu reculés par rapport à Bujumbura. Là, je crains que ça pourra peut-être être au niveau de Singapour, de Hong Kong comme ça. On peut présumer que ce sera déjà une bataille pas facile pour le gouvernement burundais, mais espérons qu'ils ont eu le temps d'y réfléchir parce que avec le conseil des ministres qui avait analysé ce projet de résiliation justement, j'ai cru comprendre qu'ils avaient sollicité un avis juridique. Espérons que cet avis juridique leur aura été donné et leur aura donné toute la lumière sur ce qui devait être fait. Mais d'emblée, c'est une bataille judiciaire et dans une bataille, on n'est jamais sûr à l'avance de qui va réellement l'emporter.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakaoui.
Nouvelle des provinces à présent, 13 élèves ont été blessés. Les toitures de 3 salles de classe de l'école fondamentale de Kilema, située dans la ville Kayanza, ont été emportées par des vents violents dans l'après-midi de ce mercredi vers 13h30. C'était lors d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la localité à l'Ekofo de Gakenge, zone Garusera, commune et province Muranza. Les toitures de 2 classes ont été également emportées par la pluie dans la soirée de ce mercredi. Les détails avec Josephine Jones-Hunzimana.
Cette pluie orageuse qui s'est abattue dans la ville de Kayanza a emporté les toitures de 3 salles de classe de l'école fondamentale de Kilema dans l'après-midi de ce mercredi vers 13h30. À ce moment, 13 élèves qui étaient légèrement blessés lors de cette catastrophe ont vite été évacués vers l'hôpital de référence de Kayanza pour y recevoir des soins médicaux. Désiré Atungimana, directeur de la province scolaire de Kayanza, tranquillise qu'avec la collaboration des autorités administratives, les travaux de réhabilitation des classes détruites vont bientôt commencer. Dans l'entretemps, ce jeudi, les élèves des classes de 8e victimes de ces intempéries ont été combinés dans une même salle, pendant que ceux de la 3e, eux aussi affectés par la même situation, ont dû suivre les apprentissages les après-midi. Presque la même situation s'est produite à l'école fondamentale de Gakenge, situé dans la zone de Yarusera, dans la commune des provinces de Mulanja, où les toitures de deux classes ont été complètement détruites par des pluies torrentielles de ce mercredi soir. Mais il n'y a pas eu de dégâts humains. Les élèves de 8e et 7e n'ont pas suivi des cours ce jeudi. La direction de cet établissement sollicite une aide d'urgence.
Et puis, les activités scolaires ont été paralysées dans les trois premiers cycles de toutes les écoles fondamentales de la province Makamba suite à l'absence des enseignants qui se préparent à passer le test de niveau prévu ce vendredi. Ces enseignants disent qu'ils doivent préparer sérieusement ce test. Ils ont peur d'être limogés en cas d'échec. On fait le point avec Jean-Jeanine Ménien.
Dans toutes les écoles où nous sommes passés, tous les enseignants de la gardienne jusqu'en 6e année en province Makamba, les enseignants ne font pas collectivement le travail dès le début de cette semaine. Partout, les enseignants et les maîtres responsables se regroupent dans une même salle de classe, faisant ensemble des révisions dès le matin jusqu'à la rentrée. Cela se fait au moment où certains apprenants sont dans la cour en train de jouer, d'autres à l'intérieur des classes faisant des tapages. Certains des enseignants contactés disent qu'ils ont préféré se préparer en conséquence, quand bien même le ministre en charge de l'éducation les a rassurés que personne ne sera remplacé. Ils expliquent qu'ils ne sont pas rassurés, vu que le même ministère a changé d'avis après le discours du président Evariste Ndayishimiye à propos du test de niveau des enseignants. Il a dit que quiconque s'opposera à ce test sera remplacé par des chômeurs. Les enseignants disent qu'ils se préparent pour ne pas avoir de mauvais résultats. Ils tiennent en compte la mise en garde par le président de la République, Ndayishimiye Evariste, à quiconque s'opposera au test de niveau.
Restons dans la province de Makamba pour vous dire que les chrétiens de l'église Zebou à Nyanzarak dénoncent un désordre causé au sein de cette église par certains administratifs dont la commune Nyanzarak et les responsables du parti CNDD-FDD. Ces fidèles à l'église Ezebou disent ne pas comprendre comment le conseil de l'église prend une décision et que juste après la même décision se voit annulée par sept membres de l'église soutenus par l'administration et le parti au pouvoir au niveau communal. Le point avec Benny Axelakane.
Ces fidèles de l'église Ezebou, église unie du Saint-Esprit au Burundi, disent qu'ils en ont marre avec le désordre qui persiste au sein de leur église depuis le début du mois de novembre. Ils accusent l'administration de la commune Nyanzarak et certains cadres du CNDD-FDD de s'immiscer dans la mise en place des organes de leur église en violation de son règlement d'ordre intérieur. L'exemple le plus récent est celui de deux réunions du conseil des pasteurs. Mais les clauses de ces réunions n'ont pas été exécutées jusqu'à présent. Les deux réunions avaient décidé l'exclusion du premier pasteur du nom de la Banwara Ngunda et son clique qui ont été suspendus dans leurs fonctions, accusés de plusieurs manquements, mais l'administrateur de la commune Nyanzarak, Goret Irangunda, et certains cadres du CNDD-FDD ont rejeté la décision. La dernière en date est celle du 5 mars où plus de 60 pasteurs ont encore une fois exclu ce pasteur et 6 de ses compagnons. Ce qui les a inquiétés à la veille de cette décision, ce dimanche 6 mars, ce même pasteur a ordonné 64 nouveaux pasteurs qui ne savent rien du catéchisme et exclu les 64 qui avaient pris la mesure de le suspendre et tout cela en complicité avec l'administration de la commune Nyanzarak et certains des cadres du CNDD-FDD. Cela est ainsi au moment où 4 pasteurs, parmi ceux qui plaident le respect des textes régissant cette église, croupissent dans la prison de Murembwe depuis bientôt 3 mois. Ils avaient été arrêtés le 16 décembre dernier, accusés par le parquet de Makamba d'atteinte à la sécurité intérieure et incitation à l'insurrection. À la radio Nzamba, nous avons essayé de joindre par téléphone l'administrateur de la commune Nyanzarake, Goret Irangunda, sur ce sujet, mais sans succès.
Merci Benny Axelakana pour toutes ces précisions et c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Excellente soirée à tous. Au revoir et à la prochaine.